Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et les mets en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, nous Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouer sans cesse et divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui un autre traité de la tertia part, c'est la troisième partie de la somme, le traité sur les sacrements. Avant d'attaquer les sacrements eux-mêmes, Saint Thomas d'Aquin va faire un petit traité qu'on appelle des sacrements en général. Des sacrements en général. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner les règles générales d'usage des sacrements, de validité des sacrements, puis ensuite va traiter directement chacun des sacrements. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, que Saint Thomas n'aura pas le temps de terminer ce travail, puisqu'il va mourir avant d'avoir terminé l'étude de tous les sacrements. Donc, dans la somme écrite par saint Thomas, nous avons donc le traité sur les sacrements en général, qui va de la question 60 à la question 65. Puis ensuite, nous aurons le baptême, 66 à 71, la confirmation, question 72, la Sainte Eucharistie, question 73 à 83, puis le sacrement de pénitence, question 84 à 90. Il n'aura pas le temps, hélas, de terminer le sacrement de pénitence, puisqu'il va mourir en 1274 en allant au Concile de Lyon. Et il n'aura encore une fois pas le temps de terminer. Et la somme théologique va être complétée par le frère Réginald, qui était un de ses secrétaires. Le frère Réginald va compléter la somme théologique de saint Thomas d'Aquin avec des textes de jeunesse de saint Thomas, surtout des commentaires des sentences. Donc il va terminer le sacrement de pénitence, puis faire l'extrême onction, l'ordre, le mariage, et enfin la fin dernière. Donc même ce qu'on appelle le supplément, qui contient donc les parties qui ont été préparées par le secrétaire de saint Thomas d'Aquin à partir du texte de Genèse de saint Thomas, ce supplément ne contient que des textes de saint Thomas, mais évidemment ça n'a pas la force théologique peut-être des grands textes de la somme théologique qui ont été écrits par un saint Thomas qui était en pleine possession, je dirais, de sa science théologique. Alors nous allons donc commencer maintenant le traité sur les sacrements en général, donc tertia pars, question 60 à 65, sur le polycopié. Vous avez un résumé des textes de saint Thomas, mais la partie uniquement la plus importante, à partir de la page 158. Donc saint Thomas va d'abord expliquer l'essence du sacrement. C'est ce que c'est qu'un sacrement. Reprenons d'abord la grande définition du Concile de Trente. Un signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. Donc c'est un signe qui se voit d'une grâce qui ne se voit pas. Comme la grâce divine ne se voit pas, le bon Dieu a voulu que cette grâce divine nous soit donnée par l'intermédiaire d'un signe extérieur qui lui puisse être visible. Donc saint Thomas va d'abord étudier la question 60, l'essence du sacrement, et se pose d'abord la question suivante, le sacrement entre-t-il dans le genre de signe? Alors je vais passer encore une fois, comme je le fais depuis le début de ce cours, rapidement sur les parties, je dirais, très philosophiques, parce que ce n'est pas le but du cours. Et j'essaie de vous résumer la position de saint Thomas en disant ses textes, l'essence de son texte. Donc il va bien déterminer que le sacrement se classe dans le genre signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Je vous donne un exemple tout simple. Si vous voyez la fumée qui sort d'une forêt au-dessus des arbres, vous savez que s'il y a de la fumée, il y a un feu. Le feu, vous ne le voyez pas, mais la fumée est le signe du feu. Donc le signe d'une chose qui ne se voit pas. Mais c'est la même chose dans les sacrements. Les sacrements sont des signes extérieurs que le bon Dieu a institués lui-même et que l'Église protège avec grand, grand soin, parce que ces signes sont la représentation extérieure de quelque chose d'interne, à savoir la grâce du bon Dieu qui, elle, ne se voit pas. On ne voit pas, on ne peut pas toucher physiquement la grâce du bon Dieu. Mais ces signes sont extrêmement importants parce que si on fait disparaître le signe, eh bien, on fait disparaître ce qui est derrière le signe, ce qui est sous le signe, à savoir la grâce elle-même. Les sacrements sont tellement importants, surtout aujourd'hui. Vous savez que pour savoir quelles sont les choses les plus importantes, il faut d'abord aller chercher les choses qui sont les plus attaquées par nos adversaires. Le plus grand ennemi de la foi catholique, il s'appelle Bergoglio. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est lui. Et on voit très bien comment Bergoglio, à la suite déjà de tous ceux qui l'ont précédé, depuis la mort du pape Pie XII en 1958, mais c'est un des pires, Bergoglio a tout fait pour détruire les sacrements. Il a complètement fait disparaître le sacrement de baptême en prétendant que tous les hommes sont des enfants de Dieu, alors que l'Église catholique enseigne que pour devenir enfant de Dieu, il faut être baptisé. Si tous les hommes sont des enfants de Dieu, donc il n'y a pas plus besoin du baptême. Le baptême a donc disparu. Ils ont fait, Bergoglio et ses petits copains ont fait sauter la Sainte Messe, ça date déjà d'avant lui, parce que ça a sauté en 1969. Là, c'est pour attaquer la chose la plus importante dans l'Église, savoir la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Messe a été détruite en 1969. En 1971, ils ont fait sauter le sacrement de confirmation. En 1968, ils ont fait sauter et l'épiscopat et le sacerdoce, en changeant les rituels d'ordination sacerdotale et de consécration des évêques. Et actuellement, Bergoglio s'attaque au mariage, en multipliant les soi-disant annulations de mariage, pour en fait rendre dans l'esprit des gens l'accès grand ouvert au divorce catholique. C'est maintenant par dizaines de milliers que les annulations, soi-disant annulations de mariage, sont accordées dans l'Église de Vatican II, qui ne croit plus du tout à l'unité, à la dissolubilité des mariages chrétiens. Et donc, puisque nos ennemis attaquent de toute leur force les sacrements, parce qu'ils veulent attaquer la grâce, sans la grâce on ne peut pas se sauver, il nous faut surtout défendre ces choses-là. Donc, je répète la définition du Concile de Trente, c'est le sacrement est un signe visible d'une grâce invisible donnée par Dieu pour la sanctification. Saint-Thomas ajoute que c'est le signe d'une réalité sacrée, en tant qu'elle est sanctifiante pour les hommes. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous, puisque sans les sacrements, on ne peut pas avoir accès à la grâce. Donc, c'est une réalité sacrée qui le sanctifie par la grâce sanctifiante. L'article 3 est très important en cette question 60. Le sacrement est-il signe d'une réalité unique ou de plusieurs? Je vais vous donner tout le texte du corps de l'article. Voilà ce que dit saint Thomas. Dans le sacrement de l'autel, la Sainte Eucharistie, une double réalité est signifiée. Le corps véritable du Christ et son corps mystique, selon saint Augustin, cité dans les sentences de Prosper. Le corps mystique du Christ, c'est l'Église. On appelle sacrement à proprement parler, dit saint Thomas, ce qui est ordonné à signifier notre sanctification. On peut distinguer trois aspects de notre sanctification. Sa cause, proprement dite, qui est la passion du Christ. Pourquoi? Parce que tous les sacrements viennent de la passion du Christ. Sa forme, qui consiste dans la grâce, et les vertus. Sa fin ultime, qui est la vie éternelle. Les sacrements signifient donc tout cela à la fois. Donc saint Thomas explique que le sacrement signifie plusieurs choses à la fois. D'abord, la cause, la passion du Christ, la forme qui consiste dans la grâce et les vertus, et la fin qui est la vie éternelle. Donc un sacrement, conclut saint Thomas, est un signe qui remémore la cause passée, la passion du Christ, manifeste l'effet de cette passion en nous, la grâce, et qui prédit la gloire future. Donc c'est quelque chose qui rappelle le passé, qui nous aide pour la vie présente, pour nous amener à la vie future, au paradis où le bon Dieu nous attend.
Donc cette façon de voir les choses est légèrement différente, la définition en tout cas est légèrement différente de celle de saint Thomas d'Aquin, mais ça revient exactement au même. Alors, saint Thomas se pose donc la question de savoir si ce signe sacramentel est une chose sensible. Voilà ce qu'il répond. Il est dans la nature de l'homme de parvenir à la connaissance des choses intelligibles au moyen de choses sensibles. Pourquoi ? Parce que c'est notre façon de concevoir les choses. L'homme comprend les choses par abstraction. Bon, je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, je dis simplement deux mots. Comment peut-on comprendre les choses au moyen des sens ? C'est-à-dire, le bon Dieu nous a donné cinq sens. Et nous utilisons ces cinq sens pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. Donc chaque sens, quand on voit, on entend, on touche, on goûte, etc. Donc les cinq sens vont être utilisés sur les choses extérieures et amener au cerveau des renseignements qui concernent chaque sens. Ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est goûté, ce qui est touché, etc. Tous ces renseignements vont revenir dans le cerveau qui va avoir ainsi une image de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une connaissance par abstraction. On a un système abstractif de connaissance. J'ai déjà expliqué que les anges n'ont pas ce système-là, puisqu'eux n'ont pas de sens, puisqu'ils n'ont pas de corps, qui comprennent directement les choses par intuition. Ils ont un système intuitif de connaissance. Nous, on a un système abstractif. Donc, les sacrements requièrent des choses sensibles. Bon. Alors, il se pose la question, est-ce que ce signe sacramentel demande une chose sensible particulière, déterminée ? Et voilà ce qu'il répond. Puisque la sanctification de l'homme est au pouvoir de Dieu qui sanctifie, l'homme n'est pas juge de ce qu'il doit employer pour sa sanctification, et c'est à l'institution divine de le déterminer. Ce serait bon pour Bergoglio de relire cette phrase. Ce n'est pas l'homme qui décide comment la grâce du bon Dieu va nous parvenir, mais c'est le bon Dieu qui décide ça. Le bon Dieu utilise donc les sept sacrements comme des ponts, des moyens, des ruisseaux qui amènent la grâce depuis la source, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, à notre âme actuellement, en passant par le calvaire. C'est par le calvaire que les sacrements, en quelque sorte, prennent toute leur signification. Et cette eau des sacrements, cette eau de la grâce, nous est transmise ici-bas pour que nous puissions un jour atteindre le ciel. Mais en aucun cas, l'homme n'est juge de ce qu'il doit employer pour sa sanctification. C'est à l'institution divine de le déterminer. Nous sommes des enfants de Dieu par le baptême. Attention, donc c'est l'homme qui s'occupe de nous sanctifier. Donc, les péchés des hommes, malheureusement, sont venus mettre la pagaille dans cette organisation que le bon Dieu avait voulu. Et les péchés des hommes, dit saint Thomas, ont omnubilé cette loi de la nature. Alors, les sacrements opèrent par des paroles. Alors, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. On peut envisager dans les sacrements la cause qui sanctifie, c'est le Verbe incarné, notre Seigneur, auquel le sacrement se conforme en ce qu'il joint le Verbe à la chose sensible. Ainsi, dans le mystère de l'incarnation, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est uni à une chair sensible qu'il a obtenue dans le sein très pur de notre Seigneur Jésus-Marie. Deuxièmement, on peut envisager l'homme qu'il s'agit de sanctifier par les sacrements. Et troisième raison, on peut envisager aussi la signification sacramentelle proprement dite. Qu'il était donc nécessaire que la signification des choses sensibles fût précisée par des paroles. Par exemple, quand on verse l'eau sur le front d'un enfant pour le baptême, on dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le mot baptême, ici, a le sens de l'eau qui coule sur le front. Bon, le sacrement de confirmation, le mot « confirmation », indique justement le travail de la grâce du Saint-Esprit qui va renforcer l'âme en lui donnant le caractère de soldat du Christ. Donc les sacrements requièrent des paroles déterminées. Dans le sacrement, dit saint Thomas, les paroles se comportent à la façon d'une forme et les choses sensibles à la façon d'une matière. C'est pour ça qu'on dit que pour qu'un sacrement soit valide, on verra ça plus tard, pour qu'un sacrement soit valide, il faut la matière, la forme et un ministre avec intention de faire ce que veut faire l'Église. La matière du sacrement, c'est la chose utilisée, par exemple l'eau pour le baptême, le pain et le vin pour la Sainte Eucharistie, le Saint-Crème pour le sacrement de confirmation, etc. Donc, ça c'est la matière, et la forme, c'est la parole utilisée pour donner le sacrement. Savoir, par exemple, je te baptise au nom du Père, du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. Il faut, pour appliquer cette forme à la matière, il faut un ministre qui ait l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Ce n'est pas forcément dire, on verra ça plus tard, que ce ministre doit être un prêtre. Certains sacrements peuvent être donnés par façon parfaitement valide, surtout en cas d'urgence, par quelqu'un qui n'est pas prêtre. Une infirmière qui baptise un enfant qui est en danger de mort à la naissance, même si elle est juive ou bouddhiste, elle fait couler l'eau sur le crâne de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » parce que la maman a exigé à ce que l'infirmière fasse cela en cas de danger pour la vie de l'enfant. Eh bien, ce baptême est parfaitement valide. Donc, tout ce qui est composé de matière et de forme, le principe de détermination est du côté de la forme. Donc, encore une fois, dans le sacrement, les paroles se comportent à la façon d'une forme et les choses sensibles à la façon d'une matière. Puisque les sacrements requièrent des choses sensibles déterminées, qui s'y comportent comme une matière, ils requièrent bien davantage une forme verbale déterminée. C'est-à-dire que la forme sans la matière ou la matière sans la forme, le sacrement est invalide. Alors, peut-on ajouter ou enlever quelque chose aux paroles voulues par Dieu pour les sacrements? Voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. Évidemment, la réponse est négative. S'il a l'intention, par cette addition ou ce retranchement dans la forme, d'introduire un nouveau rite non agréé par l'Église, le sacrement ne semble pas réalisé car le ministre ne semble pas avoir l'intention de faire ce qu'il fait l'Église. Pour que le sacrement soit valide, il ne faut pas simplement la matière, la chose utilisée, la forme, les paroles utilisées, il faut aussi que le ministre ait l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Si le ministre n'a pas l'intention de faire ce que veut l'Église catholique, ce qu'a toujours voulu l'Église catholique pendant 20 siècles, le sacrement est absolument invalide. Par exemple, le baptême est donné pour donner la vertu de charité, et donc effacer le péché originel. Imaginez un prêtre qui ne croit pas à l'existence du péché originel, qui le manifeste publiquement, extérieurement, par des paroles, avant la cérémonie du baptême d'un bébé, le baptême est invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Alors saint Thomas, on verra ça plus tard, saint Thomas explique bien que si le ministre n'a pas manifesté de façon extérieure son intention de ne pas suivre l'intention de l'Église, on peut considérer qu'il a l'intention de faire ce que veut faire l'Église et le sacrement est considéré comme valide. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on viendrait fou. C'est chaque fois qu'on reçoit un sacrement, on peut se poser la question, est-ce que le ministre qui me donne le sacrement, est-ce qu'il a vraiment l'intention de faire ce que veut faire l'Église? C'est très important aussi pour la Sainte Messe. Pourquoi? La Messe, la Sainte Eucharistie, est distribuée au cours d'un sacrifice, le renouvellement non sanglant, le sacrifice du calvaire, qui est la Sainte Messe. Si un prêtre manifeste publiquement qu'il ne croit pas que la Messe est un sacrifice, il n'a pas l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Et dans ce cas-là, s'il le manifeste publiquement, le sacrement est invalide. Alors, continuons. Passons maintenant à la question 61 de la nécessité des sacrements. Nous verrons que tous les sacrements n'ont pas la même importance. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui reçoivent les sept sacrements. La plupart des gens vont se donner le sacrement de mariage ou vont recevoir le sacerdoce, mais pas les deux à la fois. Quoique ça puisse arriver dans certains cas particuliers. Un veuf, par exemple, s'est donné le sacrement de mariage, mais il va recevoir aussi, s'il devient prêtre, il va recevoir le sacerdoce, l'ordre. Alors, question 61 de la nécessité des sacrements. Les sacrements sont-ils nécessaires au salut de l'homme? Bon, on va voir par exemple qu'on ne peut pas mettre tous les sacrements encore une fois sur le même niveau. Le baptême est nécessaire au salut. Par contre, la confirmation, par exemple, n'est pas strictement parlant nécessaire au salut. L'extrême onction n'est pas strictement parlant nécessaire au salut. Dans le sens qu'on peut se sauver, même si on n'a pas reçu l'extrême onction ou le sacrement de confirmation. Alors voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc dans cette question, donc on a la question 61, article 1er. Il est nécessaire au salut des hommes que ceux-ci soient unis en une seule confession de la vraie religion. Les sacrements sont donc nécessaires au salut des hommes, bon, de façon générale. Alors, saint Thomas va donner trois raisons à ceci. Pourquoi les sacrements sont nécessaires au salut? Est-ce qu'on peut se sauver sans les sacrements? La réponse est non. Même si tous les sacrements et chacun d'entre eux ne sont pas nécessaires au salut, on a besoin, entre autres, du sacrement de baptême pour pouvoir être sauvé. Donc, trois raisons pour lesquelles ces sacrements sont nécessaires au salut de l'homme. La première raison, dit saint Thomas, se tire de la condition de la nature humaine. Il lui est propre de s'acheminer par le corporel et le sensible au spirituel à l'intelligible. Encore une fois, cela vient du fait que nous comprenons les choses de façon abstractive. Pour pouvoir comprendre à l'intérieur de notre intelligence ce qui se passe à l'extérieur, on est obligé de partir du sensible, du singulier qui existe à l'extérieur, pour avoir une image interne, une image universelle qui représente ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il appartient à la providence divine de pourvoir à chaque être selon le mode de sa condition. Bon, le moyen de salut d'un ange n'est pas le même que le moyen de salut d'un homme. La sagesse divine agit donc harmonieusement en conférant à l'homme le secours du salut sous des signes corporels et sensibles qu'on appelle les sacrements. Deuxième raison. Cette deuxième raison, dit saint Thomas, se tire du fait où se trouve l'homme. En péchant, il s'est soumis par sa sensibilité aux choses corporelles. Or, on doit appliquer le remède à l'endroit du mal. Il convenait donc que Dieu se servit de signes corporels pour administrer à l'homme un remède spirituel qui, présenté à découvert, serait inaccessible à un esprit livré aux intérêts corporels. Bon. Quand on pêche, très souvent, on utilise aussi notre corps pour pécher. On utilise nos mains, nos pieds, etc. pour offenser le bon Dieu. En faisant des choses qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple, avec nos mains, dans les lieux interdits, avec nos pieds. Donc, eh bien, le bon Dieu, nous dit saint Thomas, va utiliser les sacrements justement à cause de cela. Et comme l'homme est corps et âme, le sacrement va avoir une partie matérielle et une partie formelle. La troisième raison se tire du goût prépondérant de l'homme pour des occupations corporelles. Pour les occupations corporelles. Alors ça veut dire quoi? Voilà ce que dit saint Thomas. L'en retirer totalement serait trop dur. Aussi lui propose-t-on dans les sacrements les activités corporelles qu'il habite absolutairement à éviter les activités superstitieuses, le culte des démons par exemple, ou en général les activités pécheresses qui lui nuisent de toute façon. Pour pouvoir utiliser les sacrements, il est évident que l'homme doit se mettre dans une disposition physique et spirituelle pour pouvoir recevoir ces sacrements de façon valide. Donc, je reprends la phrase parce que j'ai fait une faute dans un mot. Je répète cette phrase. L'en retirer totalement serait trop dur. Retirer totalement l'homme des occupations corporelles serait trop dur. Aussi, lui propose-t-on dans les sacrements les activités corporelles qui l'habituent salutairement à éviter des activités superstitieuses ou des activités pécheresses. Ainsi, conclusion de saint Thomas d'Aquin, par l'institution des sacrements, l'homme est instruit au moyen du sensible d'une façon adaptée à sa nature. Il s'humilie par le recours au corporel dont il reconnaît ainsi la domination. Nous ne sommes pas des purs esprits. Donc les sacrements ne parlent pas directement seulement à l'âme, mais aussi au corps. C'est-à-dire qu'il y a des choses physiques qui s'exercent dans les sacrements. Par exemple, le sacrement de confirmation, ben, l'évêque va faire une croix sur le front avec le Saint-Crème. Il va donner une petite claque à l'enfant pour manifester justement ce que représente le sacrement de confirmation. Les sacrements, se demande saint Thomas d'Aquin, sont-ils nécessaires dans l'état qui a précédé, ou plus exactement, les sacrements étaient-ils nécessaires dans l'état qui a précédé le péché, c'est-à-dire pour Adam et Ève? Bon. Les sacrements étaient-ils nécessaires pour Adam et Ève avant qu'ils commettent le péché originel? La réponse est évidemment non dans l'état d'innocence. Dans l'état d'innocence, dit saint Thomas, qui précéda le péché originel, les sacrements ne furent pas nécessaires. Pourquoi? Parce que le but des sacrements, c'est de nous aider à vaincre le péché, nous donner la grâce. Sous-entendu, une grâce qui est perdue, ou une grâce qui est augmentée. Or, avant le péché originel, Adam et Ève étaient constamment en état de grâce, donc n'avaient pas besoin des sacrements. Dans l'état d'innocence, avant le péché originel pour Adam et Ève, l'homme n'avait pas besoin des sacrements, non seulement en tant qu'ils sont ordonnés à guérir le péché, mais aussi en tant qu'ils sont ordonnés à la perfection de l'âme. Parce qu'il y avait la porte, si vous voulez, de notre âme était constamment gardée grande ouverte, donc le bon Dieu pouvait rentrer quand il voulait. Ce qui n'est plus le cas depuis le péché originel. Alors, deuxième question. les sacrements étaient-ils nécessaires dans l'état qui a suivi le péché? Là, c'est une situation complètement différente. Donc, est-il nécessaire d'utiliser les sacrements après le péché originel? Donc, c'est la question 61, article 3. Les sacrements étaient-ils nécessaires dans l'état qui a suivi le péché? Voilà ce que répond saint Thomas. Avant la venue du Christ, il fallait déjà des signes visibles par lesquels l'homme professerait sa foi en la venue future du Sauveur. Ce sont ces signes qu'on appelle sacrements. Aussi est-il évident que l'institution de certains sacrements s'imposait avant la venue du Christ. Donc là, saint Thomas parle pour la période de temps depuis le péché originel jusqu'à l'arrivée du Christ, donc une période d'à peu près 7000 ans. La cause finale, si elle ne vient pas à la première dans le temps, est première dans l'intention de celui qui agit. C'est une phrase très connue de saint Thomas d'Aquin, qu'on retrouve très souvent dans la somme de saint Thomas. Voilà ce que dit saint Thomas très souvent, ce qui est premier dans l'intention est dernier dans l'exécution. Je répète cette phrase plus complète ici dans le texte de saint Thomas. La cause finale, si elle ne vient pas la première dans le temps, est première dans l'intention, celui qui agit. Première dans l'intention au début, même si dans la pratique, l'exécution de cette chose n'arrivera qu'à la fin de notre vie ou à la fin des temps. Avec le déroulement du temps, le péché prit sur l'homme un empire croissant et obscurcit à tel point sa raison que les préceptes de la loi naturelle ne suffisaient plus pour le faire vivre vertueusement. Il a fallu déterminer des préceptes en établissant une loi positive et outre cela, certains sacrements de la foi. Donc il n'y avait pas en tant que tel dans l'Ancien Testament des sacrements du Nouveau Testament. Même le baptême n'existait pas, mais il y avait toute une série de signes qui manifestaient pour les Juifs de l'Ancien Testament leur foi au Messie à venir. Nous verrons tout ça plus tard. Par exemple, la circoncision pour les hommes, toutes les purifications légales de l'époque manifestaient la nécessité de se purifier de ses péchés pour pouvoir rentrer en grâce avec le bon Dieu. Par exemple, lorsque le grand prêtre faisait le sacrifice d'un agneau, avec le sang de l'agneau aspergeait la foule devant le temple, et ensuite la chair de l'agneau était rôtie au feu le bouc émissaire était envoyé mourir dans le désert, et bien cela représentait justement l'arrivée un jour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendrait comme un agneau divin pour enlever le péché. Alors, donc saint Thomas continue de progresser dans le temps, après avoir demandé s'il était nécessaire d'avoir un sacrement avant le péché originel, puis entre le péché originel et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment maintenant, les sacrements étaient-ils nécessaires après la venue du Christ? Donc saint Thomas va répondre en disant qu'il faut, dans la loi nouvelle, pour signifier les actions du Christ déjà accomplies, des sacrements différents de ceux que de l'ancienne loi qui annonçait les réalités à venir. Donc les Juifs de l'Ancien Testament croyaient au Messie qui devait venir, les catholiques d'aujourd'hui croient au Messie qui est déjà venu. C'est pas la même chose, pas tout mélanger. De même, si après la venue du Christ, Dieu institue des sacrements différents de ceux qui existaient sous la loi, cela ne met en lui aucun changement, car les uns convenaient à une grâce qu'il s'agit de préfigurer, les autres conviennent à une grâce qu'il faut montrer comme présente. Donc il est évident que les sacrements du Nouveau Testament ont une richesse que n'avaient pas les sacrements entre guillemets de l'Ancien Testament. Alors passons à la question 62, savoir si l'effet principal des sacrements est la grâce. Rappelez-vous la définition des sacrements, on peut toujours y revenir, signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Alors, les sacrements de la loi nouvelle sont-ils cause de la grâce? Alors, la réponse, évidemment, est positive. Saint Thomas explique bien que les sacrements de la loi nouvelle, c'est du Nouveau Testament, après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ces sacrements de la loi nouvelle, de quelque façon, causent la grâce. Et il explique bien que ce sacrement non seulement signifie la grâce, mais cause la grâce. Pourquoi ? Parce que la grâce n'est pas autre chose qu'une certaine ressemblance de la nature divine reçue en participation. C'est ici de Saint-Pierre, deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 1, il nous a donné de grandes et précieuses promesses pour que nous soyons participants à la nature divine. Nous devenons participants à la nature divine. Pour expliquer cela, je peux vous lire la très belle prière qui est dite par le prêtre au début de l'offertoire à chaque messe. La prière Deus Humanae Substantiae. Ô Dieu, qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et qui d'une manière plus admirable encore l'avait rétabli dans sa dignité première, accordez-nous par le mélange symbolique de cette eau et de ce vin d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné s'unir à notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc, la grâce du bon Dieu nous donne une ressemblance à la nature divine reçue en participation, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est ainsi que les sacrements de la loi nouvelle, nous dit saint Thomas d'Aquin, causent la grâce. Sous l'influence d'une ordination divine, ils sont offerts aux hommes pour causer en eux la grâce sanctifiante. Soit un début de grâce sanctifiante, soit une augmentation d'une grâce sanctifiante déjà existante, nous allons voir tout cela. Donc saint Thomas précise, par leur opération propre, exercée à l'égard du corps qu'ils touchent, les sacrements corporels effectuent leur opération instrumentale qui procède de la puissance divine et qui atteint l'homme. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quand saint Thomas dit que la grâce n'est pas autre chose qu'une certaine ressemblance de la nature divine reçue en participation, on comprend pourquoi nous pouvons dire « fils adoptif de Dieu ». C'est-à-dire, il y a une certaine divinisation de notre nature par les sacrements. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin, l'homme, Dieu devint homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Bon, évidemment, il faut comprendre dans le bon sens cette phrase, mais elle est très importante. Alors, saint Thomas se pose maintenant la question de savoir si la grâce sacramentelle ajoute quelque chose à la grâce des vertus et des dons. Alors voilà ce qu'il répond. La grâce sacramentale ajoute effectivement quelque chose à la grâce des vertus et des dons. La grâce considérée en elle-même, en tant qu'elle participe d'une certaine ressemblance avec l'être divin, perfectionne l'essence de l'âme. Donc on devient d'une certaine façon participant à la nature divine par l'usage des sacrements. Ainsi, dit-il, la grâce sacramentelle ajoute à la grâce prise en général, ainsi qu'aux vertus et aux dons, un certain secours divin pour l'obtention de la fin du sacrement. De cette façon, la grâce sacramentelle ajoute quelque chose à la grâce des vertus et des dons. Vous voyez que saint Thomas progresse lentement pour être sûr que nous puissions suivre son raisonnement. N'oublions pas que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin a été écrite malgré les apparences pour les débutants. Donc c'est tout à fait pour nous. Article 3, la question 62. Les sacrements contiennent-ils la grâce ? Alors voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. La grâce se trouve dans les sacrements selon une certaine vertu instrumentale qui est une réalité en devenir et inachevée dans son être naturel. Donc la grâce se développer dans l'homme par la réception du sacrement. Alors on va voir tout cela. Article 4 de cette même question 62. Y a-t-il dans les sacrements une vertu pour causer la grâce ? Voyons que la prudence de saint Thomas dans son cheminement. Si l'on tient, dit-il, que le sacrement est cause instrumentale de la grâce, il faut nécessairement poser du même coup dans le sacrement l'existence d'une certaine vertu instrumentale pour amener l'effet sacramentel. Donc le sacrement est comme un pont, si vous voulez, un aqueduc qui va amener l'eau au cœur humain, à l'âme humaine. Cette vertu se proportionne donc à l'instrument. Elle se trouve donc avec la vertu constituée et achevée qui appartient à un être dans le même rapport que l'instrument avec l'agent principal. c'est philosophique, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, il y a dans l'homme une puissance obédientielle à la grâce. Elle est préparée à recevoir la grâce. Justement parce que cette âme a été créée à l'image et peut-être créée aussi à la ressemblance de Dieu. Article 5. Cette vertu des sacrements découlait de la passion du Christ. La réponse est évidente, puisqu'on a déjà vu que tous les sacrements viennent de la passion du Christ. Donc saint Thomas cite saint Paul, « Les sacrements par lesquels l'Église est sauvée jaillirent du côté du Christ endormi sur la croix. » De même que du côté d'Adam, la première femme Ève est sortie, de la même façon, du côté du Sacré-Cœur qui s'ouvre sur la croix, les sacrements vont tous sortir. La cause efficiente principale de la grâce est Dieu lui-même, pour qui l'humanité du Christ est un instrument conjoint et le sacrement un instrument séparé. C'est pourquoi il faut que la vertu salutaire découle de la divinité du Christ par son humanité jusqu'au sacrement. Donc le bon Dieu va se servir de son humanité, puisqu'il est Dieu et homme, pour nous donner les sacrements. Les sacrements passent donc par son humanité, donc passent par la passion du Christ. C'est surtout ainsi par la passion du Christ qui nous a délivrés de nos péchés par manière d'efficience, de mérite, mais aussi de sanctification, de satisfaction, pardon. C'est par la passion du Christ donc, que nous obtenons les grâces des sacrements. Il est donc évident, termine saint Thomas, que les sacrements de l'Église tiennent spécialement leur vertu de la passion du Christ. C'est la réception des sacrements qui nous met en communication avec la vertu de la passion du Christ. L'eau et le sang, jaillis du côté du Christ en croix, symbolisent cette vérité, l'eau se rapportant au baptême et le sang à la Sainte Eucharistie, ce sont les sacrements les plus importants. Donc l'eau et le sang qui jaillissent du Sacré-Cœur après la mort de notre Seigneur, lorsque le Sacré-Cœur fut ouvert par la lance de Saint Longin, cette eau et le sang représentent l'eau du baptême et le sang de la Sainte Eucharistie. Vous voyez, comme toutes ces explications sont belles. Les traités sur les sacrements sont plus faciles en général que les grands traités comme la Trinité ou le Verbe incarné. Donc, il termine cet article 5 en disant que le pardon de la faute est fruit de la passion. Article 6. Les sacrements de l'ancienne loi causaient-ils la grâce ? Avant l'arrivée de notre Seigneur. Et la réponse est négative. Les sacrements de la loi ancienne ne conféraient pas la grâce. On peut soutenir que les sacrements de la loi ancienne conféraient la grâce justifiante par eux-mêmes, c'est-à-dire par leur vertu propre, car en ce cas, la passion... Non, pardon, je reprends. On ne peut soutenir que les sacrements de la loi ancienne de l'Ancien Testament conféraient la grâce justifiante par eux-mêmes, c'est-à-dire par leur vertu propre, car en ce cas, la passion du Christ n'aurait pas été nécessaire. Si la justice vient de la loi, le Christ est mort pour rien. Donc, avant la passion du Christ, les sacrements ou les imitations, en quelque sorte, de sacrements qui existaient auparavant ne conféraient pas la grâce directement. Les sacrements de la loi ancienne étaient comme des protestations de cette foi en tant qu'il signifiait, j'utilise le mot imitation, peut-être mieux utiliser le mot de saint Thomas ici, je répète cette phrase, le sacrement de la loi ancienne était comme des protestations de cette foi en tant qu'il signifiait la passion du Christ. Donc c'est plus une signification qu'une imitation. Signifier la passion du Christ et de ses effets. Donc clair que les sacrements de la loi ancienne n'avaient en eux aucune vertu capable de conférer la grâce justifiante, ils se bornaient à signifier la foi par laquelle on était justifié. Mais il y avait une justification réelle qui était faite pour les Juifs de l'Ancien Testament par la foi au Christ à venir. Puisqu'il fallait bien que ceux de l'Ancien Testament puissent se sauver, même s'il n'y avait pas de sacrement, et donc pas la grâce sacramentelle donnée par les sacrements, puisqu'il n'y avait pas encore de sacrement. Donc, saint Thomas donne comme exemple la circoncision, comme les autres sacrements de la loi ancienne, était donc signe de la foi justifiante. La grâce était donc conférée dans la circoncision en tant qu'elle était signe de la passion future du Christ. Et c'est la même chose pour toutes les purifications de l'Ancien Testament. Alors, voyons maintenant, question 63, le caractère. Bon, le caractère, vous savez, c'est une marque indélébile qui est produite dans l'âme par certains sacrements. Par trois d'entre eux, le baptême, qui donne le sacrement, le caractère, pardon, d'enfant de Dieu, la confirmation qui donne le caractère de soldat de Dieu, et l'ordre qui donne le caractère de ministre de Dieu. Les autres sacrements ne donnent pas le caractère. C'est pour cela qu'on ne peut recevoir plusieurs fois les sacrements qui donnent un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. Vous allez me dire, mais dans la pratique, le mariage n'est reçu qu'une fois. Ce n'est pas toujours le cas. Le mariage peut être en soi reçu plusieurs fois, entre autres pour des veufs. Ils ont le droit de se remarier. Donc il n'y a pas de caractère avec le sacrement de mariage. C'est pour ça que le mariage, le sacrement de mariage, est détruit par la mort. Alors que le sacrement de l'ordre n'est pas détruit par la mort, à cause du caractère qui existe pour le sacrement de l'ordre, qui n'existe pas pour le sacrement de mariage. Donc, les sacrements de la loi nouvelle sont ordonnés à une double fin, dit saint Thomas, remédier au péché et parfaire l'âme en vue du culte de Dieu tel qu'il convient au rite de la vie chrétienne. Ainsi, dit-il, puisque les hommes sont députés par les sacrements au service spirituel du culte de Dieu, il est logique que ces sacrements marquent les fidèles d'un certain caractère spirituel. Alors, nous avançons. Saint Thomas continue dans son raisonnement pour essayer d'analyser quelle est l'essence de ce caractère qui est donné par trois sacrements. Voilà ce qu'il dit, que le caractère est une puissance. Bon. Sacrement de la loi nouvelle imprime un caractère, enfin pas tous, mais trois d'entre eux, en tant qu'il députe les hommes au culte de Dieu tel qu'il convient au rite de la religion chrétienne. Le caractère emporte donc une puissance spirituelle ordonnée au culte divin, et par le baptême, et par la confirmation, et par l'ordre. Cette puissance spirituelle est une puissance instrumentale. Saint Thomas va expliquer plus profondément plus tard. Donc, Saint Thomas ensuite va expliquer que ce caractère est une empreinte en quelque sorte, une marque, comme un sceau qui est marqué sur l'âme, qui est indélébile. Donc c'est au Christ lui-même que l'on doit attribuer en propre le caractère sacramentel. Le caractère est proprement un sceau, terme utilisé par saint Thomas, S-C-E-A-U, un sceau qui désigne une chose ordonnée à une fin déterminée. Rappelez-vous la définition du Concile de Trente, signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour la sanctification. Donc le fidèle est député à deux choses. D'abord, la titre principale à la jouissance de la gloire, et pour cela, il est marqué du sceau de la grâce. En second lieu, chaque fidèle est député à recevoir ou à donner aux autres ce qui concerne le culte de Dieu, et c'est là le rôle propre du caractère sacramental. Donc le caractère sacramental nous donne les moyens de recevoir ou de donner aux autres ce qui concerne le culte de Dieu. Recevoir les choses qui concernent le culte de Dieu par le sacrement de baptême et donner aux autres ce qui concerne le culte de Dieu par le sacrement de l'ordre. Donc le caractère sacramentel, est spécialement caractère du Christ au sacerdoce, de qui les fidèles sont configurés selon le caractère sacramentel. Ceux-ci ne sont pas autre chose que des sortes de participation du sacerdoce du Christ qui découle du Christ lui-même. Donc par le baptême, nous recevons quelque chose de Dieu. Par le sacrement de l'ordre, le jeune lévite reçoit aussi une participation au sacerdoce du Christ. Participation au sacerdoce du Christ que ne reçoivent pas les fidèles qui ne sont pas prêtres. C'est pour ça que la grâce que reçoit le jeune lévite quand il devient prêtre n'est pas en soi la grâce sacramentale, mais une grâce d'union entre Seigneur Jésus-Christ. Alors avançons dans les explications de saint Thomas d'Aquin. Le caractère des fidèles est donc ce qui distingue les fidèles du Christ avec les esclaves du démon, soit en vue de la vie éternelle, soit en vue du culte de l'Église présente. Le premier rôle est rempli par la charité et la grâce, et le second par le caractère sacramentel. Donc, le caractère sacramentel représente le culte de l'Église présente, et la charité et la grâce représentent la nécessité de la vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Alors, quel est le sujet maintenant dans lequel le caractère va travailler ? Voilà ce que dit saint Thomas. Le caractère existe dans les puissances de l'âme. Le caractère est un certain sceau par lequel l'âme est désignée pour recevoir ou transmettre aux autres ce qui concerne le culte divin. Le caractère n'a donc pas pour sujet l'essence de l'âme, mais l'une de ses puissances. On va voir tout cela maintenant plus en détail. La libéralité divine accorde, dit saint Thomas, la grâce à ceux qui reçoivent le caractère pour leur permettre de remplir dignement les fonctions auxquelles ils sont députés. Le bon Dieu ne peut pas nous demander des choses impossibles. Donc s'il nous demande de faire certaines choses, il nous donne les moyens spirituels pour que nous puissions accomplir ce qui nous est demandé. Nous avançons avec l'article 5 de la question 63. Le caractère est-il indélébile ? Alors, c'est la foi catholique qui nous l'enseigne, donc la réponse est évidemment oui. Le caractère sacramentel ne peut être effacé. Donc, quelqu'un qui a le sacrement de l'ordre, qui a le sacrement de confirmation, qui a le sacrement de baptême, a une marque sur son âme qui ne peut être effacée par aucune puissance au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas enlever ce caractère. C'est très important. Parfois, on reçoit des... C'est rare, heureusement, moi ça m'est arrivé une fois, d'avoir quelqu'un, malheureusement, un apostat, une apostate, que j'ai baptisé moi-même sous condition, qui est une protestante convertie à une retraite, qui malheureusement n'a pas persévéré, je pense parce qu'elle a conservé trop de contacts avec ses amis protestants, et de retourner, apostasie, retourner à la foi protestante, l'église protestante, l'hérésie protestante. Elle m'a écrit, a eu le culot de m'écrire pour demander à ce que son nom soit rayé des registres de baptême. Je lui ai dit que c'était, je répondais en disant que c'était absolument impossible, que Dieu lui-même ne pouvait pas enlever le caractère du baptême qu'elle avait inscrit de façon indélébile sur son âme et qu'elle l'aurait pour toute l'éternité. Même si elle tombe au fond de l'enfer, ce que je ne lui souhaitais pas, même au fond de l'enfer, elle aurait ce caractère. Et j'ai simplement, je lui ai dit, je peux simplement mettre sur le registre que j'ai fait, cette personne, à la date de son baptême, a officiellement apostasié tel jour, telle date. Donc le caractère sacramental ne peut être effacé. Il ne convient pas au Christ d'avoir un caractère, parce que lui il est Dieu, son pouvoir sacerdotal est au caractère ce que l'être plénier et parfait est à l'être participé. Nous participons à la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ est la divinité par essence. Donc ce caractère va être inscrit directement sur l'âme. Et l'intellect étant perpétuel et incorruptible, le caractère demeure en l'âme de façon indélébile. La grâce s'y trouve donc, se trouve dans la... Je reprends. Saint Thomas se pose la question de savoir si la grâce et le caractère sont dans l'âme de la même façon. Parce qu'il dit, la grâce se trouve dans l'âme comme une forme qui a son être achevé, tandis que le caractère... Il est comme une vertu instrumentale. Le caractère est donc indélébile en l'âme, non en raison de sa perfection propre, mais en raison, dit saint Thomas, de la perfection possédée par le sacerdoce du Christ dont il procède à titre de vertu instrumentale. Caractère donc rapproche les âmes du sacerdoce divin. Ça ne veut pas dire que le baptême nous donne le sacerdoce. Attention, le sacerdoce n'est donné que par le sacrement de l'ordre. Article 6 de question 63. Tous les sacrements de la loi nouvelle impriment-ils un caractère ? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Tous les sacrements de la loi nouvelle n'impriment pas de caractère. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a que trois sacrements qui impriment un caractère. Tous les sacrements ne sont pas ordonnés directement au culte divin. Il est évident, par exemple, que le sacrement de pénitence, qui délivre l'homme du péché, ne lui fournit rien de nouveau pour le culte divin, mais le rétablit dans son état premier. Alors, trois sacrements, donc, dit saint Thomas, impriment un caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. Tous les sacrements ne députe pas, l'homme au culte en qualité de membre actif ou passif du sacerdoce du Christ, c'est cela qui est requis pour qu'un sacrement imprime un caractère. Donc, le caractère donne une députation, une participation plus ou moins grande au sacerdoce du Christ. Alors, même le baptême ne donne pas le sacerdoce, mais donne une participation plus grande à la divinité du Christ. Alors voyons maintenant la cause des sacrements. Nous n'aurons pas le temps de finir toute cette question 64, mais on va au moins la commencer. Dieu, se demande saint Thomas, est-il seul à réaliser l'effet intérieur du sacrement? Alors, il explique, il fait une distinction, il y a deux façons de réaliser un effet, soit en qualité d'agent principal, soit en qualité d'instrument. Selon la première manière, qualité d'agent principal, c'est Dieu seul qui réalise l'effet intérieur du sacrement, par la grâce. C'est parce que Dieu seul pénètre dans l'âme où réside l'effet du sacrement et un être ne peut agir directement là où il n'est pas. C'est ainsi, parce qu'il appartient à Dieu seul de produire la grâce qui est l'effet intérieur du sacrement. Ce n'est pas l'homme qui produit la grâce, mais Dieu. Donc l'homme, par la force du poignet, ne peut pas obtenir une goutte de grâce. C'est impossible. C'est un don gratuit de Dieu. De la seconde manière, de façon instrumentale, en agissant en qualité de ministre, l'homme peut réaliser l'effet intérieur du sacrement. Donc ce qui est, ça c'est la phrase importante de saint Thomas d'Aquin, ce qui est proprement l'effet du sacrement n'est pas obtenu par la prière de l'Église ou du ministre, mais par le mérite de la passion du Christ dont la vertu agit dans les sacrements. Donc un bien annexe, cependant, peut être obtenu ou bénéficiaire du sacrement par la dévention du ministre. Donc un saint, par exemple, qui vous baptise, peut obtenir pour le bébé qu'il baptise des grâces particulières. Mais le sacrement du baptême, le caractère du sacrement du baptême, la grâce sacramentelle du sacrement du baptême, la vertu de charité qui est donnée par le bon Dieu à l'âme du bébé baptisé, ceci ne dépend pas du ministre, mais dépend directement de Dieu. Donc cette institution des sacrements a-t-elle Dieu seul pour auteur? Alors la réponse est claire, Dieu seul peut instituer les sacrements de Dieu. Dieu seul peut instituer les sacrements. La vertu du sacrement vient de celui qui l'a institué. La vertu du sacrement ne venant que de Dieu, il en résulte que Dieu seul a institué les sacrements. Donc l'Église n'a aucun pouvoir pour instituer un nouveau sacrement. L'Église n'a aucun pouvoir pour supprimer un sacrement, changer le nombre de sacrements. C'est impossible. Là, il y a une très belle phrase de saint Thomas qui explique bien la chose. Les apôtres et leurs successeurs sont les vicaires de Dieu pour le gouvernement de cette Église qui est constituée par la foi et les sacrements de la foi. Les apôtres, c'est les évêques. Les successeurs des apôtres sont les évêques. Aussi, de même qu'ils ne peuvent constituer une autre église, ils ne peuvent transmettre une autre foi ni instituer d'autres sacrements. C'est par les sacrements qui coulèrent du côté du Christ crucifié que l'église du Christ a été constituée. Encore une phrase que Bergoglio devrait méditer. Voyons maintenant le pouvoir du Christ sur les sacrements. Donc c'est la vertu divine, Thomas l'a déjà dit, il répète, c'est la vertu divine qui produit secrètement le salut. Or, la vertu divine appartient au Christ non en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Le Christ produit donc l'effet intérieur des sacrements en tant qu'il est Dieu et en tant qu'il est homme. Donc c'est Dieu qui agit en utilisant son humanité de façon instrumentale. En tant que Dieu, il agit dans les sacrements à titre d'auteur souverain. En tant qu'homme, il en opère les effets intérieurs de façon méritoire et aussi par mode d'efficience. Mais alors, il s'agit seulement d'une efficience instrumentale, ce que je viens de dire. Son humanité est l'instrument de sa divinité. C'est pour cela que l'on peut dire que tous les sacrements prennent leur source dans la passion. La passion, elle n'est pas quelque chose dans la divinité de notre Seigneur. Jésus-Christ n'a pas pu souffrir la passion en tant que Dieu, mais dans son humanité, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert sa passion en tant qu'homme. De même, dit saint Thomas, que le Christ en tant que Dieu a un pouvoir souverain sur les sacrements, de même en tant qu'homme, il a un pouvoir de ministre principal, pouvoir d'excellence. Il détaille les quatre prérogatives donc de Dieu, homme, Dieu fait homme. Il a un pouvoir donc du ministre principal, le pouvoir d'excellence, en ce que c'est le mérite et la vertu de sa passion qui agissent dans les sacrements. On l'a déjà dit. C'est par la foi, deuxièmement, que nous entrons en communication avec la vertu de la passion. Car c'est lui que Dieu a établi d'avance comme moyen de propitiation par la foi en son sang. Saint Paul aux Romains, chapitre 3. Donc la foi que nous professons par l'invocation du nom de Christ, c'est pourquoi le fait que les sacrements sont consacrés au nom du Christ relève du pouvoir d'excellence que le Christ exerce sur tous les sacrements. Et troisième prérogative, c'est à leur institution par le Christ que les sacrements tiennent leur vertu. Il appartient donc à l'excellence du pouvoir du Christ que celui qui a donné aux sacrements leur vertu ait pu les instituer. Et enfin, quatrième prérogative, comme la cause ne dépend pas de son effet, mais bien plutôt l'effet de la cause, il appartient à l'excellence du pouvoir du Christ qu'il ait pu produire l'effet des sacrements sans accomplir le rite sacramental extérieur. Nous verrons ça plus tard. Dieu, dans certains cas, peut donner une grâce particulière sans passer par un sacrement. Dieu étant Dieu, il peut passer au-dessus des sacrements. Par exemple, il peut très bien pardonner les péchés d'un gros pécheur qui fait un acte de contrition parfaite, même sans sacrement de pénitence. Article 4 de la question 64. Le Christ pouvait-il communiquer à d'autres son pouvoir sur les sacrements? Donc saint Thomas répond positivement. C'est pour ça qu'il a institué le sacrement de l'ordre. Le Christ a pu communiquer ce pouvoir à ses ministres. Le Christ avait un double pouvoir sur les sacrements. Un pouvoir souverain qui lui appartient en tant qu'il est Dieu, et ce pouvoir ne pouvait être communiqué à aucune créature, pas plus que l'essence divine. L'homme qui reçoit les pouvoirs de Dieu ne devient pas Dieu pour autant. Mais le Christ avait aussi un autre pouvoir, celui d'excellence, qui lui appartient en tant qu'il est homme. Et ce pouvoir-là, il pouvait le communiquer à ses ministres. Mais pas le pouvoir divin, pas le fait qu'il est Dieu. Alors, question importante, article 5 de la question 64. Les mauvais peuvent-ils avoir un pouvoir ministériel sur les sacrements? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Les ministres de l'Église agissent instrumentalement dans les sacrements, car d'une certaine façon, la définition du ministre est identique à celle de l'instrument. Aussi, est-il indifférent que le corps du médecin soit sain ou malade, car il n'est que l'instrument de l'âme en qui réside l'art médical. Peu importe que le conduit par où l'eau passe soit en argent ou en plomb. Ainsi, et voilà la phrase clé, les ministres de l'Église peuvent-ils conférer les sacrements même s'ils sont mauvais? Ça veut dire que si un prêtre ne croit pas au péché originel, le manifeste publiquement, le sacrement de baptême qu'il donne est invalide. Mais si le prêtre vit dans le péché mortel jusqu'au cou, tout en croyant à toutes à ce qu'est le sacrement de baptême qu'il donne à des enfants est parfaitement valide, même si le ministre est malheureusement en état de péché mortel. Ça n'empêche pas le ministre de commettre une faute grave, de donner un sacrement, d'administrer un sacrement en état de péché mortel. Ça, c'est autre chose. Donc, de même que le médecin peut guérir quelqu'un, même si lui-même vit dans l'état de péché mortel, de la même façon, le prêtre peut donner des sacrements valides, même si malheureusement il est en état de péché mortel. Heureusement d'ailleurs, parce que vous vous rendez compte, s'il fallait, comme disent les protestants, ou certains protestants au moins, que le prêtre soit en état de grâce pour donner validement un sacrement, vous soyez sûr de rien, de recevoir la Sainte Communion. Est-ce que le prêtre qui a célébré la messe, qui a consacré ses hosties, était en état de grâce ou non? Comment puis-je le deviner? J'en sais rien du tout. Et comme j'en sais rien du tout, donc je ne peux pas être sûr de la validité du sacrement. C'est pour ça, rassurez-vous, que, et ça c'est très important à comprendre, que le pouvoir du prêtre est indépendant de... le pouvoir des prêtres est indépendant de la... du caractère... de, non, je reprends. Le pouvoir du prêtre est indépendant de son état de grâce. Alors, saint Thomas va continuer, ensuite on verra ça la prochaine fois, parce que ça demande plus d'explications peut-être. Les mauvais pêchent-ils en administrant les sacrements? Donc ça, c'est la question 64, article 6, que nous verrons, si Dieu veut, la prochaine fois, parce que ça fait déjà une heure que je vous parle, je ne veux pas dépasser une heure de cours pour que les gens puissent vraiment suivre sans trop s'encombrer la mémoire et sans trop écrabouiller leur cervelle. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pilis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.